Alors aujourd'hui, je continue Satyavan et Savitri, le livre 5, chant 3 de Savitri. J'ai aperçu la présence de l'un en tout, mais toujours manqué l'ultime pouvoir transcendant. Et toujours la matière dormait, vide de son Seigneur. L'esprit était sauvé, mais le corps, perdu et muet, vivait toujours avec la mort et l'antique ignorance. L'inconscient était sa base, le vide son destin. Mais tu es venu. Alors sûrement tout va changer. Je sentirai la mer des mondes dans tes membres dorés et j'entendrai sa sagesse par ta voix sacrée. L'enfant du vide renaîtra en Dieu. Ma matière s'évadera de l'hypnose de l'inconscient. Mon corps comme mon esprit sera libre, il sortira de la mort et de l'ignorance. » Et Savitri, toujours rêveuse, répondit : « Parle encore, parle-moi encore, ô Satyavan, parle de toi-même et de tout ce que tu es dedans. Je voudrais te connaître comme si depuis toujours nous avions vécu ensemble dans la chambre de nos âmes. Parle jusqu'à ce qu'une lumière entre dans mon cœur et l'émotion de ma pensée mortelle comprenne ce que sent tout l'être immortel en moi. Il sait que tu es celui-là que mon esprit a cherché. Parmi la foule des visages et les formes de la terre, à travers les espaces dorés de ma vie. Et Satyavan, comme une harpe, rejoint l'appel pressant d'une flûte, répondit à sa question en laissant couler son cœur par de grandes vagues de maintes couleurs. Ô princesse d'or, ô parfaite Savitri, plus encore, je voudrais dire que ne peuvent dire les mots défaillants. Dire tout ce que tu as signifié pour moi inconnu et tout ce qu'un éclair d'amour révèle. Dans une grande heure qui dévoile les dieux, même une brève rencontre a recréé ma vie, car je sais maintenant que tout ce que j'ai vécu et été allé avec ce moment de renaissance dans mon cœur. Quand je regarde derrière moi, je vois le sens de ce moi, une âme se préparer pour toi sur le sol de cette terre. Jadis, mes jours étaient comme les jours des autres hommes. Penser, agir était tout, jouir et respirer, tel était le large et le haut de l'espoir mortel. Pourtant venaient des aperçus d'un moi plus profond, qui vit derrière la vie et fait de la vie la scène de ses actes. Une vérité se sentait qui masquait sa forme derrière l'écran mental, une grandeur à l'œuvre qui marchait vers un but caché. Et vaguement derrière les formes de la terre, il y voyait un regard. À quelque chose que la vie n'est pas encore, mais qui doit être. À tâtons, j'allais vers le mystère, avec la lanterne de la pensée. Ces lueurs éclairaient avec des mots abstraits un terrain pénombreux, et mètre après mètre faisaient la carte d'un système du moi et de Dieu. Je n'arrivais pas à vivre la vérité que la lanterne disait et pensait. Je voulais saisir la vérité dans ses formes visibles, espérant fixer son code par le mental mortel. J'imposais l'étroite structure d'une loi du monde à la liberté de l'infini, un squelette de vérité extérieure, solide et rigoureux, un schéma mental d'un pouvoir mécanique. Cette lumière montrait davantage encore les ténèbres impénétrées. Elle rendait plus occulte encore le secret originel. Elle ne pouvait pas analyser son voile cosmique, ni entrevoir la main cachée de l'ouvrier des prodiges, ni retrouver la trace et la trame de ses plans magiques. Je me suis plongée dans la voyance d'un mental interne et j'ai su les lois secrètes et les sorcelleries qui font de la matière l'esclave hébété du mental. Le mystère n'était pas résolu, mais il s'approfondissait davantage. J'ai essayé de trouver sa piste par l'art et la beauté, mais la forme ne peut pas dévoiler le pouvoir qui l'habite. Elle jette seulement ses symboles sur notre cœur. Elle évoquait un état d'âme du moi, invoquait un signe de toute cette gloire qui couve et cache son vrai sens. Je vivais dans un rayon, mais je ne voyais pas le soleil en face. Je regardais le monde et manquais le moi. Et quand j'eus découvert le moi, j'ai perdu le monde, perdu mes autres moi et le corps de Dieu. Le chaînon entre le fini et l'infini, le pont et les apparences et la vérité, le but mystique par lequel ce monde fut créé, le sens humain de l'immortalité. Mais maintenant, le maillon d'or vient à moi avec tes pas, et son soleil d'or a rayonné sur moi par ta face. Car maintenant avec toi, un autre règne approche. Et maintenant, des voix plus divines emplissent mes oreilles. Un étrange monde nouveau coule vers moi par tes yeux et s'approche comme une étoile venue des cieux inconnus. Un cri des sphères vient avec toi. Un cri des sphères vient avec toi. Et un chant des dieux de flamme. Je respire un air plus riche. Les moments marchent à un rythme plus brûlant. Transfiguré, mon mental est saisi de l'ivresse du voyant. Une cascade de joie bondissante a traversé les ondes, légère comme l'écume, échangé mon cœur, échangé la terre autour. Tout est rempli par ta venue. L'air, la terre, les rivières ont mis leur robe de noces pour s'apprêter à toi. Et la lumière du soleil est devenue une ombre de ta couleur, car ton regard a changé, a tout changer en moi. Viens plus près, descends de ton char de lumière. Sur cette prairie verte, ne dédaigne point notre sol. Il y a ici des espaces secrets, faits pour toi. Et leurs grottes d'émeraude rêvent d'abriter ta forme. Ne veux-tu pas faire ta sphère de cette joie mortelle? Descends, ô félicité, pose tes pas de lune dorée, féconde les fonds de la terre endormie sur laquelle nous gisons. Ô ma lumineuse princesse de beauté, Savitri, pour mon délice, c'est par ta propre joie contrainte, entre dans ma vie, ta chambre, ton sanctuaire, dans la grande paix où les esprits se rencontrent, conduite par mon silencieux désir dans mes forêts, permet que les hautes voûtes bruissantes se penchent sur toi, une avec le souffle des choses éternelles, vis ici, tes battements de cœur unis aux miens, jusqu'à ce que jaillisse, enchanté par la fragrance des fleurs, un moment dont tous les murmures se rappelleront, et chaque oiseau se souviendra dans son cri. Tiré de ses profondeurs par la passion de ses mots, l'âme insondable de Savitri a regardé Satyavan. Par ses lèvres, des sons limpides ont parlé. Elle a prononcé ces seuls mots qui disaient tout. Ô Satyavan, je t'ai entendu et je sais. Je sais que toi et moi seulement, et celui-là. Alors, elle est descendue des hauteurs de son char sculpté, avec une douce hâte hésitante, sa robe de maintes couleurs chatoyée dans la lumière, flottant un moment sur les herbes folles, mêlées aux rayons changeants de son propre corps. Comme le plumage irisé d'un oiseau qui se pose sur l'or vert de la prairie, c'est par adieu éparpillé une vieille mémoire de joie égarée et doucement pressée le désir muet de la terre qui chérissait ce trop bref passage sur son sol. Alors ses mains légères comme les ailes du papillon argenté cueillirent à l'orée de la forêt dans les buissons ensoleillés une brassée bourdonnante de corolles ardentes, compagne du printemps et de la brise. Ses doigts agiles ont tissé une fraîche guirlande candide comme une chanson de fleurs pour un cantique nuptial. Ils mêlèrent le parfum et les couleurs profondes de leurs rêves. Et par ce signe coloré de leur aspiration, Savitri et Satyavan furent un. La fleur de leur pureté, de leur passion, tel un sacrement de joie dans ses paumes aimantes. Elle a porté le symbole fleuri de l'offrande de sa vie, puis les mains levées, tremblant un peu maintenant dans cette intimité que son âme appelait, elle a posé ce lien de tendresse, ce signe de leur union lumineuse sur la poitrine rêvée par son amour. Comme devant quelque dieu gracieux, sorti des brumes de sa grandeur resplendissante pour remplir de beauté les heures de son adorateur, elle s'est prosternée devant Satyavana, touchant ses pieds avec des mains d'adoration. Elle faisait de sa vie un monde où il pouvait poser ses pas. Elle faisait de son corps sa chambre de délices. Elle faisait des battements de son cœur une mémoire de son bonheur. Il s'est penché vers elle et il a pris dans son cœur leur aspiration mariée et les mains jointes de leurs espoirs. Soudainement, c'était comme s'il prenait possession de tout un monde de richesses qui se mariait à tout ce qu'il avait été, qui devenait lui-même une inépuisable joie devenue sienne uniquement. Il a serré Savitri tout entière dans ses bras. Cette embrasse autour d'elle devenait le signe d'une union scellée par de lentes années intimes. Un premier sommet tendre du délice à venir. Une seconde intense de toute une longue vie. Dans ce vaste moment où deux âmes se joignent, Savitri sentait son être couler en lui comme se verse un fleuve vague par vague dans une puissante mer. De même qu'une âme se fond en Dieu pour vivre en lui à jamais et connaître sa joie. Sa connaissance maintenant savait lui seulement, et tout son moi séparé était perdu dans le sien. Comme le ciel étoilé encercle la terre heureuse, il l'embrassait en lui dans un cercle de bonheur et embrassait le monde et elle en lui. Une île sans borne faisait un seul corps. Il savait qu'il l'enveloppait et en même temps elle l'imprégnait jusqu'à l'âme, tel un monde qui s'emplit de l'esprit du monde, tel le mortel qui s'éveille à l'éternité, tel le fini qui s'ouvre à l'infini. Ainsi se perdirent-ils l'un dans l'autre pendant un temps, puis en retirant de leur longue transe extatique, ils entrèrent dans un moi nouveau et dans un monde nouveau. Chacun maintenant faisait partie de l'unité de l'autre. Le monde était seulement la scène de leur découverte jumelle, ou le corps plus vaste de leur propre être marié. Sous la haute coupole ardente de ce jour-là, le destin tissait un nœud avec les fils de l'auréole matinale. Alors, sous les auspices d'une heure faste, unis par le cœur devant le soleil, ce feu sacrificiel de leurs noces, le mariage du Seigneur éternel et de son épouse eut lieu de nouveau sur la terre et dans une forme humaine, dans un nouvel acte du drame cosmique. Les uns, les deux en un, ouvraient un âge plus noble. Je me permets de répéter, les deux en un ouvraient un âge plus noble. Parmi le silence et le murmure de ce monde d'émeraude et le balbutiement des versets sacrés du prêtre des vents, parmi le choral bruissant des feuilles nouvelles, les deux de l'amour étaient réunis et devenus un. Une fois de plus, le miracle naturel s'accomplissait. Dans l'immuable monde de l'idéal, un moment humain devenait éternel. Alors, par les trois sentiers où leur vie s'était rejointe, il l'a conduite et il lui a montré son monde futur. Ce refuge de l'amour, ce coin d'heureuse solitude, au bout du sentier, par une trouée verte dans les arbres, elle a vu une allée fleurie et les toits de l'ermitage, et tout de suite trouver la future maison de son cœur, le chaume qui abritait la vie de Satyavan, orné de liserons pourpres et de vignes vierges. Elle rappelait une beauté sylvestre de ses rêves, endormie, le corps bronzé, les cheveux défaits, dans sa chambre de verdure inviolée et paisible. Autour s'étendait l'âme contemplative de la forêt, perdue dans les profondeurs de sa propre solitude. D'abord, saisie d'une joie profonde, elle ne savait plus les mots. Un petit écho tremblait dans ses paroles, puis sa voix ravie a crié vers Satyavan. Mon cœur restera ici, à l'orée de cette forêt, tout près de ce toit de chaume, tandis que je serai loin. Maintenant, il n'est plus besoin d'errer. Mais il me faut revenir en hâte à la maison de mon père, qui bientôt n'entendra plus le bruit familier des pas qu'il aimait et attendra en vain la voix qu'il chérissait. Mais bientôt je reviendrai et plus jamais notre unité ne doit rompre sa joie retrouvée, ni le destin séparer nos vies tant que la vie est nôtre. Une fois de plus, elle est montée sur son char sculpté, et dans l'ardeur de ce midi de feu, moins éclatant que la splendeur de ses pensées et de ses rêves, elle a volé, bride abattue et cœur battant. Mais elle voyait encore dans l'immobile lucidité du monde intérieur, parmi la fraîcheur parfumée des bois attristés, sur les sentiers ombreux entre les hauts troncs rugueux, Satyavan marchait vers une clairière tranquille. Une chaumière d'ermite enchâssée dans une nef de ramures, cette nouvelle cachette de sa joie profonde, ce temple et cette demeure de son âme étaient plus chers que les cieux. Ceci, maintenant, restait la scène constante de son cœur. Sri Aurobindo. Voilà. Alors, je me permets infiniment de finir la fin du chant 3, fin du livre 5. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Mère pour cette lecture. Merci Auroville, merci à tous. Et merci à tous d'être là. Ganga Lakshmi.